Bienvenue dans Son Bâtard à 15h59. Incroyable ponctualité, n'est pas coutume sur Radio Cadmu, rassurez-vous. Aujourd'hui, 56e émission si je ne m'abuse, mais je me trompe souvent quand j'annonce les numéros. En tout cas, pour les aficionados et aficionadas du blog de Son Bâtard qui promettait une immense surprise, eh bien, elle est sans doute reportée à la semaine prochaine. C'est de la publicité mensongère, mais vous êtes là quand même. Du coup, numéro 56, intitulé « Pas de chef à mon orchestre ». Ça va être un grand mix très orchestral, très arrangé, des big bands, des orchestres, du rock en grande formation, etc., etc., qui accompagneront des paroles assez anarchistes, qui parlent de hiérarchie, qui parlent d'autogestion, qui parlent de squat. On va faire un petit remember de plein de squats d'il y a pas mal d'années. Notamment le Boulon et à Saint-Étienne, la Poulaille et Izmir, des émissions de Mégacombi et du numéro 0. On commence en fanfare par la Hongrie. Pour l'argent, voici la coche.
2000 à 2006, un collectif de foufous et de joyeux lurons vont occuper le 3 rue de la Sablière pour animer un espace d'activité libre, presque gratuit, ouvert à tous et toutes, dans le quartier Tarentaise-Beaubrun. Malgré le fait qu'ils vont se faire expulser de façon un peu expéditive directement à l'arrivée et qu'ils vont réoccuper de façon coup de poing dans la foulée, l'aventure va durer quand même relativement longtemps. Je dirais même qu'on s'était pas du tout préparé à ça, parce que du coup moi j'y habitais pendant un moment, que ça a été presque un peu long et qu'on a failli devenir relou. Tout ce temps-là, ça va être l'occasion de se construire et de faire tout un tas de trucs, notamment un groupe féministe, des goûters spectacles pour les enfants, de discuter, de découvrir les chimanis qui occupent le banc toutes les après-midi, de mettre en place une bibliothèque, un atelier vélo, de faire la teuf, de s'embrouiller aussi, de découvrir tout un tas de trucs pour être combine, pour vivre avec le moins d'argent possible et ainsi organiser des activités gratos, de faire tout un tas de bordel dans tous les sens, dans la rue, dans les bâtiments, pour essayer d'enrayer un petit peu le tramway qui avance souvent tout droit à Saint-Étienne. Et puis ça va être aussi l'occasion d'affûter nos dents sur la politique d'urbanisme de la ville et le grand projet débile. Ça va être aussi le point de départ d'une occupation de maisons. Parmi elles, il y aura la Palmeraie, le Labo Afrix, le Coin-Coin, le CC, chez Pépette, chez Mémère, qui sont toutes aujourd'hui expulsées, alors que la plupart de ces bâtiments sont encore inoccupés. Moi, je voulais quand même souligner que les proprios, ils sont quand même bien démerdés pour les rendre inoccupables directement après l'expulsion, qu'ils les ont soit murés, soit détruit les planchers, soit créé des fuites dans le toit. C'est une belle façon de s'aborder le bien, et que ça permet que maintenant ils soient inoccupés, mais au moins il n'y a pas squatter dedans.
Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment ça se fait que vous avez ouvert ce lieu, d'où est-ce que cette aventure est partie.
J'ai pas envie de parler obligatoirement de personne, mais bon, donc il y a un côté, je dirais, politique aussi, dans le sens que, surtout à Saint-Étienne, enfin, je pense que ça se passe dans beaucoup d'autres villes, il y a beaucoup, beaucoup de belles maisons qui sont vides, murées, tout ça, il y a beaucoup de gens qui vivent dehors, et c'est dommage parce que ces maisons, du coup, pourrissent. Et alors qu'il y a des gens qui pourraient les entretenir en vivant dedans.
Puis de toute façon, de par vos activités, vous essayez aussi de casser ce cliché squat, défonce, drogue.
Voilà, du tout, il y a tout ça chez nous.
Pour beaucoup de personnes, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le squat, c'est les zonards, c'est les gens, c'est un lieu de défonce, de drogue, voilà quoi.
Bah, on est des zonards, on est dans un lieu de défonce, mais pas plus ni moins qu'ailleurs en fait. Voilà. Mais sinon, sur le pourquoi de squatter, il y a plein de raisons. Il y a la raison du logement, comme disait Cécile. Il y a la raison d'habiter en collectivité et donc de profiter de ces avantages de la collectivité. Et un des autres choses qui me tient à cœur, c'est répandre l'anarchie et le chaos.
Alors, est-ce que...
Et par les faits et pas en étant dans un groupe, pas seulement étant dans un groupe militant, etc.
J'aime bien moi cette façon de voir répandre l'anarchie et le chaos, cette façon de voir toutes ces occupations comme. Un truc de confrontation plus qu'un moyen pour dire c'est la galère lieu à Saint-Étienne et tout ça, parce que si on a décidé de squatter, c'est parce qu'on a décidé de prendre et de rien demander à personne, qu'on se démerde très bien tout seul et qu'on a décidé de faire chier un maximum puisqu'on est dans les parages et voilà.
Chef à mon orchestre, pas de dieu dans mon bac à disques, pas de château dans mon bac à sable.
I am in powder, running puppet fat out on my body in a holy word, not noticing a giant Buddha's foot right in front of a kookai ad on a sign stating, do drugs or drugs will do you. I'm a pariah, a notion of total war grows slowly in my mind, but it's still in its infancy, kindly waiting in a shadowy romantic throat. Told my originators all this would occur in various parts. This is first, I've got a third, and a fourth, and a fifth, and a sixth. What about all tarrying parts? I'm waiting, still waiting, and counting, and counting, with my hands on my lips, drowning out, chanting. I am still the protagonist, still the protagonist, still the protagonist, I am still the protagonist, I am still the protagonist, I am still the protagonist, still the protagonist, I am 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 still the protagonist, still the protagonist, still the protagonist, I am still the protagonist. On the 31st, I will. I am in Prada. Pariah. I am in Prada. I'm a pariah. I'm a pariah.
c'est des aspects pratiques, c'est-à-dire toutes ces comment dire, des arts et des techniques de cambriolage, de d'ouverture de serrure, de, voilà, donc il y a des aspects vraiment pratiques où on sent les choses, voilà. Et puis sinon, j'ai rien contre le vol, des pas.
Je suis anarchiste depuis que. Depuis pas mal d'années maintenant, quoi. Enfin, je l'étais. En fait, anarchiste, un bien grand mot. Je fais partie d'aucun parti, mais à l'intérieur de moi, bon, ben, j'ai jamais trop aimé l'ordre établi. Je connais à peu près. Comment dire. C'est dur devant le micro. Mais non, non, mais c'est une. C'est
comme si qui n'existait pas.
Ouais, voilà. Ben, c'est juste une histoire de lucidité, quoi. Moi, je pense que les partis politiques, on sait très bien où ça mène. Donc voilà, une fois que j'ai lu pas mal de livres sur l'anarchie, j'ai vu que, en fait, on pouvait s'organiser différemment que par tout simplement voter pour un parti qui va gouverner, etc. etc. Donc voilà, mais je ne suis pas un utopiste, hein. Je ne crois pas en grand soir et tout ça, mais moi, individuel, en tant qu'individu, je suis anarchiste. Non, je pense que l'anarchie, ça part de l'individu. Après, individualisme, c'est les courants anarcho-syndicalistes, tout ça. Bon, moi, là-dedans, je suis un peu tout. Hein. Si j'avais à être syndiqué, ce serait dans un but précis. En fait, moi, pour moi, c'est pas un fétiche, c'est pas une... Comment dire, c'est quand je parle de mon état d'anarchiste, c'est en fonction de comme je vois les autres, etc., en ayant changé des propos, en ayant tout un tas d'expériences qui font que, voilà, je refuse... un certain ordre établi, je refuse la société de marché. Voilà, et je suis ni au NPA, ni de gauche, de droite. Moi, tout ça, ça ne veut plus rien dire. C'est des trucs qui sont plus ou moins liés à des institutions que je refuse, voilà, qui ne m'apportent rien, que je pense qu'ils ne sont pas là pour m'aider, quoi, au contraire. Donc c'est en ça que je pense que l'anarchisme, justement, ça part de l'individu. Ensuite, eh ben, c'est les associations, fédérations, etc., pour l'instant, je suis un peu tout seul, mais bon. Enfin, non, ici, non. Non, non, mais oui, non, mais je discute avec plein de gens. Non, non, mais oui. Après, bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas un truc d'être encarté ou de se balader avec un A cerclé, tout ça. Ça part de l'individu. Après, il y a certains principes qui sont simples, et puis voilà, le reste. L'anarchisme, on peut pas l'enfermer dans des dogmes, mais c'est ça qui est bien, justement. Ça s'apprend, c'est la vie. C'est l'autogestion, c'est tout un tas de choses. Maintenant, avec ce qui se passe, on se dit, bon, bah, si ça revenait un peu, que la trouille change de camp, qu'il y ait des patrons un peu qui soient secoués durement, voire même, voilà, quoi. Il y a quand même des morts, quand tu vois des mecs qui se suicident au boulot, tout ça... Il faudrait que ça change un peu de côté, voilà. Donc, j'hésite pas. Les hommes qui sont mutés par l'autre. Voilà, exactement. Donc, la violence, quand elle est d'un côté, elle est légitimée, ou on l'explique toujours d'une manière ou d'une autre, mais bon, quand c'est de l'autre, voilà, tu parles de jeunes qui se font buter par les flics, c'est quand même scandaleux. Quand tu vois des gamins, bon, qui pourraient changer, etc., qui pourraient voir. Peut-être pas réussir comme ils disent, hein. Il y a plein de gens qui disent, oh, moi, je sors de la banlieue, puis j'ai réussi, mais ben, c'est un sur je sais pas combien. Je veux dire, bon, dans la jeunesse, on fait des conneries, etc. Ça se paye pas par la mort ou par la prison ou par tout un tas de trucs. Quand c'est un flic qui se fait descendre, voilà, c'est... Il y a un côté destructeur dans l'anarchisme, c'est vrai. Parce qu'il faut pas hésiter à détruire, c'est pour ça que... La violence, elle est d'un côté, elle est pratiquée tous les jours. C'est-à-dire que quand on nie la lutte des classes, à la télévision, tout ça, quand ils font des débats, eux, ils la pratiquent. Ils la pratiquent avec férocité, on peut dire. Donc, qu'est-ce qu'on répond, nous ? On va se balader pour faire des petites manifs le 1er mai ou pour contrer des réformes, tout ça. Moi, je pense que ça, c'est plus efficace. Donc, il y a un côté... Quand tu vois, bon, bah, les gens, ils sont poussés à bout, par exemple, en Grèce, ça se finit par automatiquement de la violence. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, c'est ce côté-là, ce côté destructeur de l'anarchisme qui fait partie aussi du truc, mais c'est pas que ça. parce qu'il y a tout un tas d'expériences anarchistes, que ce soit en Espagne, en Russie, pas à la Russie des bolcheviks, je pense à l'Ukraine, quoi. Surtout que voilà, on veut surtout dire voilà, anarchisme, mec qui pose des bombes, les Sex Pistols, tout ça. C'est une partie de l'anarchisme, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que bon, ben, y a aussi un côté vachement constructif dans l'anarchisme. C'est carrément. Pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore testé pour vivre en société, quoi. Et c'est, on peut pas dire que c'est un système non plus, quoi. C'est compliqué, quoi. Il y a un aspect très constructif, c'est-à-dire l'autogestion, le fait que ton travail t'appartienne, qu'il n'y ait plus de salariat, etc. Voilà, c'est ce côté-là, moi, qui m'intéresse. Pour arriver là, il y a de la violence, c'est tout. Parce que de toute façon, ils lâcheront pas comme ça.
la vie, la mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu, mais on pourra se présenter là-haut une place au chapeau.
Cerclé sur votre façade, vous êtes anarchiste.
Bah, ça c'était un dame qui était de passage qui a décidé de faire son petit dessin. Un anarchiste, je sais pas.
On n'a pas échappé au logo, de l'alternative. Quoi. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est pourquoi, parce qu'effectivement, de toute façon, je pense qu'on est tous plus ou moins. Branché sur des envies, on a tous plus ou moins des envies libertaires. Après, le acerclé, je vois un peu de difficulté avec les symboles, quoi. Mais bon, c'est une façon de dire un peu au monde, oui, voilà, il y a une façon de faire autrement que ce qui est toujours dit. Ça, y a un voisin a demandé si c'était de la provocation, l'acerclé, quoi.
C'est plus ou moins de la provoque, on est là, puis voilà, après, bon. Je pense pas qu'il y ait tout le monde qui se retrouve derrière ça. Enfin, en tout cas, les gens qui habitent ici, je pense pas qu'il y ait grand monde qui se dise anarchiste ici.
Il y a plus de SF dans les bibliothèques que de tomes de Kropotkin ou Bakounine ou Inin et tout ça, quoi.
Et il y a pas mal de gens qui voient le fait, par exemple, de choisir ce mode de vie-là comme une sorte de truc d'entrée en rupture avec une sorte de système et tout ça. Et vous, quand, par exemple, comment vous vous situez par rapport à ça, par rapport au système de société et tout ça, enfin...
Je pense qu'on s'en sent tous plus ou moins exclus, ou alors qu'on s'en exclut nous-mêmes. On a envie de vivre autrement, quoi, comme on le souhaiterait. Avoir des clivages derrière, des trucs qui te forcent à faire tous les jours la même tâche répétitive. Voir des gens que t'as pas envie de voir, voilà, de vivre ensemble dans une certaine idée de, ouais, voilà, de liberté,
ouais, de sortir des schémas d'hiérarchie, quoi, enfin, bon, on va revenir au cercle, mais ouais, de sortir des schémas d'hiérarchie, quoi, de pas... C'est vrai qu'on vit dans une société qui est quand même très catégorisée, très hiérarchisée, très... on doit soit, et souvent, de toute façon, les deux, recevoir et donner des ordres. On n'a pas tous l'âme de commandant, de commandé, voilà, mais on vit dedans, parce qu'on vit dans la société, quoi. Tout simplement, la société, comme tout espace, elle a des marges, et ces marges, elles sont grandes, elles peuvent être occupées, on peut y évoluer, se développer, s'enrichir, je veux dire, personnellement, très très bien. Oui, c'est vrai qu'on la regarde un peu de côté des fois. On la regarde depuis notre marge un peu des fois, la société.
En la parasitant.
En la parasitant, en vivant bien aussi, quoi. C'est parce qu'elle est mal faite, peut-être que finalement on peut faire autant de récup, qu'on puisse avoir autant d'espace, qu'on puisse. C'est parce qu'elle a ses failles, quoi. dans ces failles sans forcément s'exclure tout à fait, parce que de toute façon on a toujours un pied dedans, quoi. Parce que comme disait Scoobiche, il y a des gens qui travaillent ici, enfin il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de schéma du squatter type, quoi, que ce soit ici ou ailleurs.
Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you know. Show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way to move? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all. Show me what you have to show. Tell us all today if you know the way to blue. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, open like the blind.
Sixième mix critique de son bâtard, pas de chef à mon orchestre. Donc voilà, le boulon, pourquoi ça s'appelle le boulon?
À la base, il me semble que c'était parce que c'était un endroit où le collectif qui était là au début s'est dit on a le droit ici de péter des boulons, parce que peut-être qu'elles ont ressenti que je sais pas, elles n'avaient pas la possibilité dans d'autres endroits. Et puis à force de péter des boulons, ce collectif s'est autodétruit. Et puis voilà, après on s'est dit tiens, on va dire le boulon c'est aussi du matériel de bricolage, donc on a pris cette option là un peu.
Si tu savais tout ce qui s'est passé ici en 3 ans et demi, c'est complètement fou. La même chose en location, je pense pas.
Fouine aura peut-être le sens de squatter en fait. Pourquoi squatter?
Pour moi, ça, ce genre d'endroit permet vraiment la possibilité d'investir des espaces comme tu le souhaites. On peut se permettre beaucoup plus de choses, plein d'expériences, ce qui est complètement inenvisageable dans une location, même si on décide de par exemple, louer à plein d'endroits. De toute manière, on n'aura pas la même prise sur l'endroit. Et puis c'est dans l'idée aussi de freiner, de ralentir à notre manière tout le délire immobilier, quoi. Parce qu'à partir du moment où il y a des gens qui s'hébergent dans des maisons qui sont vides et inutilisées, ben, ça pose des soucis, ça se fait se poser des questions.
J'en avais hyper envie, plus sur ce que ça représentait, comme j'avais l'impression de vie collective et de forme de liberté là, que j'avais l'impression qu'il y avait dans les squats. Un peu de créativité et tout ça. Et qu'au début, c'était quand même plus du ressenti que vraiment un truc politique clairement défini, où je pouvais pas forcément mettre des mots dessus. Et que maintenant, ouais, ça me paraît clair que de toute manière, c'est une des premières choses dont on a besoin, c'est de se loger et que du coup, de rendre payant les choses dont on a besoin de manière vitale, là, et ben c'est vraiment un truc, vraiment la base pour nous forcer à travailler. Si on s'organise bien, on peut tous avoir de la place pour se loger et qu'il n'y a pas de raison que de devoir payer là pour habiter quelque part.
Gérard ?
Moi, je crois que ça a surtout été motivé par le moment où j'ai décidé d'arrêter le travail salarié. À force d'embrouilles hiérarchiques, de salaires mal payés, de travaux où je ne m'épanouissais pas, machin, etc. Et du coup, bah, pas d'argent, pas de loyer. Donc, en fait, ça en fait toute une logique qui est hyper liée de vivre sans travail, donc de récupérer, enfin, sans travail, sans activité salariée. Parce que du coup, ici, ça demande quand même beaucoup de taf. Je pense qu'il y a des squats qui sont juste des maisons, mais ici, du coup, il y a énormément de taf pour toutes les activités, pour tout l'entretien. On a fait plein de travaux en fonction des gens, pour modifier l'espace, etc. Toutes les récup, tous les restos, enfin, tous les trucs qui ont fait que, en fait, on a besoin de toute façon d'un maximum de temps, en plus des projets personnels ou des trucs comme ça. Vu qu'il n'y a aucune subvention, que tout est autogéré, t'es obligé de tout faire toi-même, ce qui rallonge largement plein de procédures. T'achètes rien, tu sous-traites pas, tu fais tout, donc ça te prend du temps. T'es obligé d'apprendre à faire des choses que tu sais pas faire. Peut-être plein d'apprentissages, t'échanges tes expériences avec des gens qui savent faire d'autres choses, plein d'échanges de savoir, et tout ce temps-là, il sert à ça, quoi.
C'est pas pisser neuf, hein. Faut pas être pisser neuf, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, faut arrêter le délire, tu vois. Aujourd'hui, faut être radical et arrêter de planer et se dire qu'on va continuer. On parle de mai 68, machin, mais 68, on célèbre ça sur les pentes de la Croix-Rousse. Enfin, faut arrêter le délire. La meilleure manière de célébrer mai 68, c'est d'aller défoncer. Enfin, c'est de passer à des formes d'action qui soient pas uniquement à tout. Aujourd'hui, la négociation, toutes ces formes d'action institutionnalo, prout-prout ou poète-poète, ça marche plus, quoi. La situation sociale et politique, enfin gouvernementale, elle est suffisamment tendue pour qu'on arrête de se poser 1000 questions il faut bourriner, quoi.
Céder un peu, c'est capituler beaucoup.
On vient pas. Un squat comme le boulon, c'est vraiment justement une manière radicale de résister au système
établi. Bah, ça a permis, pour moi je dis que c'est une plateforme sociale, quoi. C'est comme un lieu qui existe depuis 3 ans et demi, c'était le lieu stable à Lyon. La plateforme, quoi, d'échange qui permet quand même d'accueillir pas mal de gens ici. La pression, enfin, de répression sur espace autonome, squat en Europe, elle est forte. Et il n'y a qu'à Lyon, j'ai entendu parler d'une histoire de solidarité entre des populations roms qui se font expulser du carré de soie et des squatteurs, on va dire, qui s'engagent dans une démarche politique, quoi. Donc, grosso modo, tous les squats aujourd'hui à Lyon ont au moins une famille, deux familles qui sont hébergées, quoi. Et ça, je ne l'ai pas entendu ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la deuxième, troisième plus grosse ville de France, une région qui est une des plus riches de France, qui a toujours été une des régions les plus riches de France, le boulon, il raconte comment aujourd'hui tout le monde est renvoyé au banc ou en périphérie de cette ville. Tu vois, c'est la peur, quoi, de voir naître peut-être des foyers de turbulence qui soient bien plus gros que ces squatteurs, étudiants, bourgeois, pas toi, je fais un peu exprès, mais qui ont les moyens aussi de mettre en pratique leur acte, quoi. Et la jonction, genre, on délirait à dire qu'ils avaient peur qu'il y ait des populations rom-punk, tu vois, qui se mettent en action sur la ville. Parce que globalement, dans le quartier, c'est génial, quoi. Tu te balades avec un triporteur et les vélos dans le bordel, les gens ils pensent que tu ramasses de la ferraille, après tu leur expliques que tu fais des vélos, tu ramasses les carcasses pour les remettre en circulation, et les gens ils sont ultra solidaires, quoi. Enfin, de ce que j'ai vu moi dernièrement sur les périodes d'activité ici, c'est, enfin, franchement ça fait plaisir, c'est de la pure balle, quoi.
C'est pas vraiment une règle, moi c'est quelque chose à laquelle j'ai été toujours hyper vigilante, mais c'est même pas seulement plus de nana, là c'est même plus que les trois quarts, parce qu'il y a vraiment un truc sinon qui se passe, un mécanisme qui se passe hyper vite. C'est aussi surtout là quand après ça devient un lieu qui représente un enjeu et tout ça, et où ça brasse beaucoup de gens, et ben souvent les gens dans leur tête ils cherchent des référents qui sont plutôt des gars quand même, même si c'est inconscient ou pas volontaire ou je sais pas quoi. Et du coup je trouvais ça assez chouette que quand les personnes elles arrivent, elles savent bien que si elles veulent s'adresser à quelqu'un, c'est plutôt des nanas à qui il faut s'adresser là, parce que c'est elles qui sont au courant des trucs où ça se passe, et aussi de pouvoir du coup s'approprier facilement les espaces, les responsabilités et tout ça. Moi j'ai trouvé même que là il y a une période où, du coup quand je suis partie là, où il y avait justement plutôt plus de gars, et que ça s'est retrouvé là, les trucs, les rapports un peu classiques que pourtant on pourrait se dire avoir dépassé quand on habite en squat, et que ça veut dire qu'on réfléchit un peu sur les rapports de pouvoir. Si on critique l'autoritarisme de l'État, et ben il y a aussi critique des rapports patriarcaux et tout ça, et du coup que tout est lié, et que pourtant en même temps on peut des fois quand même retrouver vachement de mécanismes bien ancrés là. Et même par rapport au fait de se sentir justement légitime pour prendre la parole et et prendre des décisions et tout ça, et que là il y avait quand même un peu un moment où il y avait des gens qui prenaient des décisions et les autres personnes qui allaient plus être dans le truc de, d'assurer après, genre c'est elle qui allait passer après deux jours dans la cuisine à faire des récup et à faire à bouffer pour le futur événement qui avait été prévu et proposé. Et voilà, et du coup c'est toujours un peu triste de voir des mécanismes qui se reproduisent, et puis ouais, et puis qu'une majorité nana, ça fait quand même une ambiance un peu particulière, que moi j'aime bien. Si d'une manière générale il y a des choses qu'on sent qui se passent dans le collectif et qui nous conviennent pas, on a là aussi la possibilité quand même de mettre ça sur le tapis. Pareil, après c'est pour le ménage et tous ces trucs, si on a l'impression que ça tourne pas trop en ce moment, pas juste c'est mis sur le tapis, et puis voilà. Et par rapport à des prises de pouvoir, ben il y en a toujours, de toute façon. Des fois, elles tournent, et j'appellerais plus ça des énergies ou des gens qui sont plus motivés sur un moment. Et effectivement, si elles font plus de choses, peut-être elles prennent plus de pouvoir dans l'espace, parce que là...
Vie collective, c'est dur des fois, mais je t'aime.
Ouais, je crois que la notion de pouvoir, enfin oui, c'est sûr, elle est là. Ça, c'est évident. Moi, je l'ai ressenti sur des personnes qui, effectivement, je pouvais dire « Ah, là, il est un peu chef ». Moi, je l'ai ressenti à des moments où je me suis dit « Mais là, dans le regard des autres, je sens bien en fait que finalement, je suis un peu considéré comme ça » ou des trucs comme ça. Je pense si tu fais finalement trop de choses, bah, tu finis par prendre la place d'autres gens. Si tu parles trop, tu prends la parole d'autres gens. Et que du coup, c'est plus des caractères, des ascendances, des choses comme ça. Après, il y a aussi des trucs qui... Enfin, il y a pouvoir avec un grand P, et puis il y a aussi... les répartitions de tâches, où il y a un moment où on peut dire telle personne a pouvoir sur telle chose, parce que soit c'est là où c'est ce qu'elle aime, ou c'est là où elle a beaucoup de taffé, donc elle est calée, etc., machin. Il y a le pouvoir de l'atelier vélo, il y a le pouvoir de l'atelier couture, il y a
des spécialisations.
Voilà, il y a quand même des spécialisations, même si tout le monde essaie de toucher un peu à tout, et ça c'est aussi une forme de pouvoir sur des petites zones ici qui sont là et qui sont aussi remises en question des fois. Après, pouvoir par rapport à tout le collectif, depuis que je vis ici, il y en a eu, mais j'ai jamais l'impression que les gens voulaient le garder, en tout cas, ou se battaient pour aller rester les chefs ou des choses comme ça.
Et à l'inverse, des squatteurs qui venaient juste ici pour rien payer, qui participent à rien,
il y en a eu aussi.
Mais ça dure toujours qu'un temps, parce que c'est une notion peut-être d'abus, après qui se situe, c'est super flou, parce que je pense que c'est chacun qui va ressentir le truc différemment selon sa relation avec la personne, quoi. Mais oui, effectivement, ça a existé. Et ça a créé des conflits, parce qu'il y a des gens à qui on a demandé de partir, par exemple. Et ça, c'est super délicat. Pourquoi, dans un lieu comme ça, tu te permets de... Enfin, à un moment donné, tu prends la décision qu'il y a besoin de...
De virer des gens.
De virer des gens.
Faut mettre un mot dessus, hein, c'est celui-là.
Bon, mais oui, il y a eu des gens de virer, c'était toujours pour... Mais c'était souvent parce qu'il y avait gros malaise à un moment donné, quoi.
Donc à partir du moment où il y a une personne qui freine tout un élan collectif et où toutes les personnes de la même manière, du coup bah c'est une décision qui vient d'une unanimité, que là il n'y a pas moyen de continuer comme ça. Et c'est sûr que là par exemple c'est une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir de tout un groupe sur une personne qui est aussi hyper violente. Et en même temps. Sur laquelle t'as pas le choix, parce que tu peux pas dire que le collectif il va juste être bouffé par un truc qui grippe un peu le rouage et qui fait que ça marche pas, que ça fonctionne pas, du coup c'est un peu une espèce d'anticorps un peu vital, quoi, pour que ça continue à tourner, quoi.
C'était ton bâtard 56, pas de chef à mon orchestre, il est 17h et je vous laisse avec On n'arrête pas le prog tout de suite. On se retrouve dans 15 jours. Excellent après-midi sur Radio Canu. Ciao.